On est en plein cœur de la programmation du FIPA, avec beaucoup de programmes, certains qui, sur lesquels on veut s'arrêter, sur lesquels on a besoin de s'arrêter, parce qu'ils vous prennent à la gorge, ils vous prennent aux tripes. C'est avec un de ces programmes qu'on va démarrer ce plateau. Ce programme s'appelle Silent War. Sa réalisatrice est Manon Loiseau. Nous allons en parler avec Noélie et Lucas, et surtout en présence de leur invité, Manon Loiseau. C'est véritablement, Noélie, un programme qui nous a tous bouleversés.
Silent War fait partie de ces documentaires dont on ne peut pas ressortir indemne, que l'on n'oublie pas, avec un sujet bouleversant, celui du viol. Le viol utilisé comme arme de guerre par le régime de Bachar al-Assad, comme une manière de détruire des femmes, des vies, des âmes. Silent War donne la parole à ces femmes, ces victimes qui osent enfin dénoncer les violences monstrueuses et indescriptibles qu'elles ont subies. Et leur voix, à elles seules, porte l'horreur de leur vécu par le discours, par les intonations, les larmes dans la voix et les silences. C'est un documentaire qui vous saisit, pas par la violence des images, mais par celle des discours et des histoires. Ce sont des histoires qu'on préférait peut-être ne jamais entendre, parce qu'elles vous arrachent le cœur. C'est un de ces documentaires dont on aimerait ne jamais avoir besoin, mais qui sont nécessaires, indispensables même. Et puis il y a cette femme qui nous regarde et nous dit que nous, on est là, on regarde le film, qu'on est perturbé, touché peut-être, mais qu'à la fin du film, quand les lumières se rallument, nos vies continuent et on ne fait rien. Pour ces victimes, leur vie ne continue pas, parce qu'elles leur ont été volées et parce qu'il ne reste d'elles que des femmes meurtries, souvent reniées par leur famille. Et finalement, nous sommes nombreux à avoir vu le film. Beaucoup d'entre nous en sont ressortis profondément bouleversés, en larmes et en colère parfois, parce qu'on ne fait rien. Manon Loiseau, elle, a choisi de ne pas rien faire, de dénoncer, d'utiliser son métier pour, d'une certaine manière, redonner une vie à ces femmes et les faire entendre.
Et Manon Loiseau est avec nous. Lucas, je vous cède la parole.
Oui, alors j'ai quelques questions à vous poser, même si on s'est déjà rencontrés ce matin. Alors, pour commencer, à la base du documentaire, à la base de la construction, ces femmes, comment les avez-vous rencontrées? Par quel biais?
C'est très beau, et je trouve que c'est très émouvant. Donc, voilà, merci pour ces mots, et je ne sais pas si vos mots, je pourrais les lire peut-être à Mariam et aux autres femmes, parce que, en tout cas, qu'il y ait cette transmission-là, je crois que nous, on est des passeurs. On est des passeurs de voix, et que vous les ayez accueillis comme ça, ces voix, c'est formidable, merci. Donc
oui, voilà. Donc, par quelle manière et par quel biais avez-vous pu rencontrer ces femmes avant même de faire le documentaire?
Alors c'était un très très long travail d'approche qu'on a fait à trois. J'ai fait ce film avec Annick Cogent, qui est grand reporter au Monde, et Swad Wedi, qui est une chercheuse libyenne. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce film. J'étais en 2011 à Homs, en Syrie, pendant le siège. Et déjà, j'avais entendu parler du viol dans les prisons de Bachar al-Assad. Mais les femmes, à l'époque, avaient vraiment trop peur de parler, pour témoigner. Et depuis cette époque-là, depuis 2011, j'avais ce film en tête. Ensuite, Annick Cogent a écrit des articles il y a 4 ans. Il y a eu quelques articles dans la presse internationale, donc les femmes commençaient à parler de ça, mais dans la presse écrite. Et la presse écrite, c'est de l'anonymat, on change les mots, on change les noms des gens, donc c'est beaucoup moins de danger. Forcément, faire un film, c'est les exposer. Et donc on a été, au fil des rencontres, à être en quête des femmes qui accepteraient de nous parler de cette douleur tellement enfouie. Et qui est enfoui non seulement à cause du traumatisme, mais qui est enfoui aussi parce que c'est une parole interdite. C'est une parole que le régime syrien aimerait ne pas voir sortir, parce que le viol est un tabou absolu dans la société syrienne. Et quand elles ressortent, ces femmes, de ces prisons, elles sont rejetées par leur famille, leur mari, leur mère, leurs frères et sœurs. Parfois, elles sont assassinées dans des crimes d'honneur, parce qu'on ne parle pas du viol. Donc, le fait qu'elles aient accepté de parler, dont certaines à visage découvert, qu'elles nomment leurs bourreaux, qu'elles nomment les centres de détention, c'est la première fois. C'est aussi pour ça que ce film a une résonance. Enfin, ça fait 6 mois qu'on le montre, et là, il est sur YouTube, il y a eu beaucoup de réactions en Syrie depuis quelques semaines. Ça crée un débat, ça crée un débat dans la société syrienne. Il y a beaucoup d'hommes, jeunes hommes syriens qui disent, mais on doit... en fait, ces femmes, ce sont elles les héroïnes. On doit parler de ça. Sinon, on aura tout perdu. Non seulement on aura perdu notre révolution, mais on aura perdu ça. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer, au-delà des menaces, parce qu'il y a beaucoup aussi de menaces, justement, de la société, du régime, mais aussi beaucoup dans les réseaux sociaux, parce que, oui, des menaces de mort, très clairement, parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça. Voilà, donc elles ont, c'est un acte politique qu'elles ont fait en nous parlant, un acte très risqué pour elles. Maintenant, on aimerait qu'on puisse aller dans des instances internationales, le montrer à l'ONU ou d'autres instances pour que justement elles soient et qu'elles accompagnent le film. Donc ça a été un long travail d'approche et je pense, enfin je suis sûre d'ailleurs, qu'on n'aurait pas pu faire ce film sans Souad Ouedi, qui est libyenne, qui avait beaucoup travaillé avec des femmes victimes de viol sous Kadhafi et qui a su gagner leur confiance. Elle a passé des semaines et des semaines sur les frontières syriennes. Nous, on était en Jordanie et en Turquie, elle a été aussi au Liban, pour voir lesquelles de ces femmes accepteraient de nous parler. Et puis une fois qu'on était là, avec l'équipe de tournage, c'était... du recueil de paroles beaucoup plus. C'était pas du tout de l'entretien, c'est de l'interview, parce qu'une fois que ces femmes commençaient à parler, elles ne s'arrêtaient plus, soit n'arrivaient pas à traduire, tout le monde pleurait, et nous on sentait que quelque chose de très très fort se passait. On ne savait pas, mais on avait presque... Elles parlent d'une telle manière, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, parce que justement on a pu faire ce film sans commentaire et sans doublage, il y a une poésie dans leurs mots, alors qu'elles parlent d'une atrocité, d'une barbarie, mais c'est incroyable, j'avais presque l'impression de les comprendre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées par les regards, et on a passé des heures et des heures et des jours avec elles, et voilà, on a fait jaillir cette parole. Et c'est ce qui est formidable, c'est qu'elle soit reçue de cette manière-là par vous, ici.
Et un des multiples côtés qui est très fort du film, c'est le fait de faire voir sans montrer. Alors, comment vous avez fait pour construire ça ? Avec des images si poétiques comme les paroles de ces femmes, mais pour exposer des sujets si durs ?
Je crois que c'était tout l'enjeu du film. Moi, ça fait 20 ans que je fais des films dans des dictatures, dans des pays interdits, que j'essaie de raconter aussi des femmes et des hommes debout, dans un engagement, restent debout malgré tout. Et j'ai travaillé pour Envoyé spécial, j'ai travaillé de manière très journalistique pendant des années. Là, je crois que j'avais envie de sortir de ça. Et quand j'ai commencé à entendre ces récits, je me suis dit, qu'est-ce que je peux moi rajouter ? C'est pour ça que j'ai milité pour qu'il n'y ait pas de commentaires. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Elles disent tout. Après, c'était... Elles nous ont tout dit, mais justement, il ne fallait pas aller trop loin dans l'horreur. Je crois que justement, c'était avant tout faire un film sur des femmes, ces femmes dignes et debout, malgré toute leur souffrance, tout ce qu'elles ont vécu, ce sont des survivantes. Mais le récit du viol lui-même, je pense que ce n'était pas nécessaire, il fallait le suggérer. Donc c'était aller filmer avec deux merveilleux chefs opérateurs, aller raconter, je me suis dit qu'il fallait raconter. J'ai pensé en fait à ce corps de la femme qui devient territoire de guerre des hommes, et qui devient un corps fragmenté, fissuré, et qui bascule dans l'obscurité. Et comment raconter ça ? J'ai pensé aux éléments, donc à la nature, et à tout ce qu'on pouvait voir dans la terre fissurée, à ces murs qui craquaient, à aussi ce soleil qui est aveugle et qui peut faire deviner qu'on bascule de l'autre côté. Donc c'était un véritable enjeu, parce qu'il fallait être à la hauteur de leur dignité, et en même temps très pudique, et pas aller trop loin, justement, parce que s'il y a trop de récits et d'accumulation de récits, de barbarie, je pense que nous, en tant que spectateurs, il y a un moment où on n'a plus envie d'y aller. Et donc, c'était trouver un accompagnement avec une douceur et une poésie, ce qui est étrange comme terme par rapport au sujet du viol, mais je pense que c'était fondamental pour que, justement, vous entendiez, qu'on entende leurs mots.
Et ce travail, justement, cette volonté de travailler sans voix off, dans Salentoir notamment, est-ce que c'est la finalité d'un travail entamé dans vos précédentes réalisations ?
Mm-hmm. Je crois que plus ça va. Depuis quelques années, j'ai fait un film sur l'Iran qui s'appelait Chronique d'un Iran interdit, où on avait fait passer 15 petites caméras à des Iraniens, et 3 Iraniennes ont filmé pendant 2 ans, et on a tissé un film ensemble. Et là, j'avais envie de m'effacer. C'était leur histoire. Je voulais que ce soit leur histoire et leur chronique de leur Iran. Donc il y avait un commentaire, mais de moins en moins, il y avait très peu de commentaires, et beaucoup de silence et de ces images fragiles, mais très poétiques aussi. Après, le film que j'ai fait sur la Tchétchénie il y a 3 ans, où je suis retournée sur les traces de tous les Tchétchènes que j'avais rencontrés pendant la guerre, et je raconte l'effacement de la mémoire par un régime, mais c'est aussi trouver une métaphore. Voilà, on veut effacer, il n'y a pas eu de déportation par Staline, il n'y a pas eu de guerre, alors qu'il y a eu 150 000 morts. Et c'était aussi raconter des traces de survie et des témoignages du régime de Kadyrov, mais de manière plus documentaire, en m'effaçant progressivement. Et là, il y avait, en tout cas avec ce film-là, oui, j'ai l'impression que j'ai envie de tendre plus vers ça. C'est plus cinématographique, mais c'est aussi aller vers plus d'épure et plus de silence. Je pense que le silence, je pense que le documentaire, c'est l'effacement de soi aussi.
Et qu'en est-il de l'après-film pour ces femmes, leur situation? Où en sont-elles en fait actuellement?
Alors, vaste question. Il y a plusieurs choses. Alors, il y a eu beaucoup de menaces, parce qu'évidemment, dans les heures qui ont suivi, le film est sur YouTube. On a essayé de bloquer les accès, mais à un moment donné, on ne peut pas contrôler. On est à une ère où, de toute façon, tout circule. Il y a eu une réaction assez violente en Syrie, enfin, de la part des autorités, enfin, par les réseaux sociaux gouvernementaux, on va dire. Des menaces de mort aussi, de la société, parce qu'on ne doit pas parler de ça. Mais ça, bon, on s'y attendait. Elles sont dans des endroits sécurisés. Elles ont dû changer, mais on les avait changées avant que le film ne sorte, en fait, de maison. Là, c'est en train de se calmer. Et au-delà de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi en train de créer un débat dans la société syrienne qui est en train de, justement, dans les réseaux sociaux aussi, mais les réseaux sociaux des gens, se dire, mais on doit parler de ça. Ce sont elles qui sont les héroïnes, parce qu'elles n'ont jamais pu parler. Ces crimes, ce sont des crimes de guerre, et elles ont survécu à ça. Un homme qui, par miracle, il a la chance de sortir en vie des prisons du régime, un homme qui a été arrêté parce qu'il a manifesté, ou autre, il est accueilli comme un héros par les siens, par sa famille, par son clan. Ces femmes-là, elles sont détruites. Et elles sont soit tuées, soit sur les routes. Donc, il se passe plein de choses avec quelques inquiétudes, et en même temps, elles veulent se servir du film comme leur arme à elles, pour se reconstruire et pour qu'un jour leur bourreau soit jugé. Je crois que c'est aussi pour ça qu'elles nous ont parlé, pour se retrouver à travers éventuellement un tribunal international. Et elles ont surtout parlé pour toutes les femmes qui restent encore en prison. Il reste presque 3000 femmes dans les prisons de Bachar al-Assad. Et pour que là où on est à un moment d'acceptation de Bachar al-Assad, que peut-être dans les négociations, bah, nos gouvernants européens ou américains disent ça puisse rentrer dans les négociations, c'est-à-dire faire sortir ces femmes de prison. Et puis après, on a un formidable projet. Mariam a monté une école pour des fillettes syriennes qui ont été mariées de force dans les camps de réfugiés, parce que cette grande pauvreté, et c'est encore ce corps de la femme syrienne utilisé, c'est-à-dire qu'en fait les familles qui ont plusieurs enfants qui n'ont rien, voilà, des hommes turcs riches ou alors en Jordanie des hommes des Émirats arabes viennent visiter les camps et épousent, font des mariages forcés. Les familles vendent leur petite fille de 12-13 ans. Elles parviennent à divorcer, donc Mariam, elle a créé une école pour ses petites filles, enfin pour ses fillettes, ses adolescentes, pour qu'elles puissent continuer leurs études, pour leur apprendre le droit des femmes, pour leur apprendre, pour construire la Syrie de demain. Et donc, moi, j'ai créé un Kiss Kiss Bang Bang au moment de la diffusion, et on pensait avoir, je ne sais pas, 2-3 000 euros après la diffusion, et là, on a 45 000 euros en quelques semaines. Donc, la solidarité a été merveilleuse après le film, de téléspectateurs, pour le coup. Les gens, dans les 5 euros, 10 euros, ben, du coup, on va pouvoir agrandir l'école. Il y avait 30 fillettes, il y en a 69. Les travaux sont en cours, et ça, c'est des micro-projets, mais ça, Mariam et les autres femmes, ça les aide à se reconstruire. C'est la résilience aussi, et ça aide aussi à transmettre et à donner des outils pour se construire en tant que femme et construire l'avenir de la Syrie. Donc ça, c'est un vrai beau projet auquel chacun d'entre vous peut participer, les réactions de solidarité ont été magnifiques, et il y a eu presque 300 lettres à Mariam sur le site de Kissy Bang Bang de gens qui racontaient des choses très personnelles, et qui, même voilà, d'hommes, de papas, de pères de famille, ici, qui disaient, voilà, moi je suis père de famille, j'ai honte d'être homme, j'ai honte de ce que. Voilà, il faut qu'on réagisse. Moi j'élève des filles, j'ai deux filles, j'aimerais les élever du coup différemment. Donc il y a eu des choses très belles, et tout adressé à elles, donc on lui fait traduire. Et ça les aide beaucoup, parce qu'elles sont dans une solitude absolue. Elles n'ont aucune aide psychologique, rien. Et de voir cette solidarité en France de gens qui ont entendu leur voix, pour elle, ça, c'est immense.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Manon Loiseau. Merci d'avoir pris le temps de venir partager votre travail, cet engagement et tout ce qui va au-delà simplement du seul documentaire. Merci.
Merci à vous.
L'édition 2018 de...